Dostoïevski, Les frères Karamazov. À Anna Grigorievna Dostoïevskaïa. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile selon saint Jean, 12, 24. Note de l'auteur. Commençant l'histoire de la vie de mon héros, Alexei Fiodorovitch Karamazov, je me trouve dans une certaine perplexité. Je veux dire, je déclare certes qu'Alexei Fiodorovitch est mon héros, mais néanmoins, je suis bien placé pour savoir que cet homme-là est tout sauf un grand homme. Ce qui m'amène à prévoir les inévitables questions du genre « Qu'a-t-il donc votre Alexei Fiodorovitch de si remarquable que vous l'ayez choisi pour être votre héros ? Qu'a-t-il fait de particulier ? De qui et pourquoi est-il connu ? Pourquoi, moi, lecteur, dois-je perdre du temps à étudier les faits de sa vie ? La dernière question est la plus fatale, car je ne peux y apporter qu'une seule réponse. Vous le verrez peut-être dans le roman. Mais si on lit le roman et qu'on ne le voit pas, si on reste en désaccord avec moi quant au caractère remarquable d'Alexei Fiodorovitch, je le dis parce que le deuil au cœur, je le pressens. Pour moi, c'est un homme remarquable, mais réellement, je doute de réussir à le démontrer au lecteur. Le fait est que c'est un grand homme, certes, mais encore indéterminé, non parvenu à la pleine clarté. Du reste, il est étrange dans une époque comme la nôtre d'exiger des gens de la clarté. Une chose est, je crois, plus ou moins hors de doute, c'est un homme étrange, voire un original. Mais le fait d'être étrange ou original nuirait plutôt que de donner un droit à l'attention. Surtout quand tout le monde s'efforce d'unifier les particularismes et de trouver ne serait-ce qu'un soupçon de langue commune à cette bêtise collective. L'original, lui, dans la plupart des cas, c'est un cas particulier, une mise à part. Vous ne pensez pas ? Eh bien, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec cette dernière thèse, et si vous me répondez non, ou pas toujours, que peut-être je me sentirai reprendre courage au sujet de l'importance de mon héros Alexei Fiodorovitch. Car non seulement un original n'est pas toujours un cas particulier et une mise à part, mais au contraire, il arrive que ce soit lui, j'ai l'impression, qui porte en lui cette espèce de noyau du grand tout, et que les autres gens de son époque, tous par une espèce de souffle, de vent qui passe, allez savoir pourquoi, pour un temps, ce grand tout, ils s'en sont détachés. Je ne me serais jamais lancé au demeurant dans ces explications si vagues et si peu intéressantes, et j'aurais commencé tout simplement sans préface. Ça plaît, on lira de toute façon. Or, le malheur veut que d'histoire d'une vie, j'en ai une seule, mais de roman, j'en ai deux. Le roman essentiel, c'est le second. L'activité de mon héros, cette fois dans notre temps, je veux dire au moment précis, contemporain, que nous vivons. Le premier roman, quant à lui, s'est déroulé il y a 13 ans, et ce n'est même presque pas un roman, c'est juste un moment de la première jeunesse de mon héros. Me passer de ce roman est impossible, parce qu'il y a trop de choses du second roman qu'on ne comprendrait pas. Mais, de cette façon, mes difficultés premières se compliquent encore. Si moi, n'est-ce pas, c'est-à-dire le biographe lui-même, je pense qu'un seul roman, si ça se trouve, pour un héros aussi modeste et indéterminé pourrait être superflu, de quoi ai-je l'air quand je me présente avec deux ? Et comment expliquer une telle prétention de ma part ? Puisque je me perds à essayer de résoudre ces questions, je me décide à les laisser de côté sans les résoudre du tout. Il va de soi que le lecteur perspicace a déjà deviné depuis longtemps que je tendais à cela depuis le tout début et qu'il ne faisait que s'énerver contre moi en se demandant pourquoi je dépensais pour rien des mots stériles et un temps précieux. Mais à cela, je peux faire une réponse précise. J'ai dépensé des paroles stériles et du temps précieux d'abord, par politesse, et ensuite par ruse. On a beau dire, enfin, je vous aurais quand même prévenu de telle ou telle chose. Remarquez, je suis même content que mon roman se soit divisé de lui-même en deux récits, dans l'unité fondamentale de l'ensemble. Après avoir pris connaissance du premier récit, le lecteur pourra juger de lui-même si cela vaut la peine, de son point de vue, d'entamer le second. Bien sûr, personne n'est obligé à rien, on peut aussi laisser tomber le livre après les deux premières pages du premier récit pour ne plus jamais le rouvrir. Mais il existe tout de même des lecteurs assez scrupuleux qui souhaiteront, coûte que coûte, lire jusqu'au bout pour ne pas se tromper dans leur jugement impartial. Je pense, par exemple, à tous les critiques russes. Et donc, mettons, devant ces gens-là, je me sens quand même le cœur un peu plus léger. Malgré tous leurs soins et leur honnêteté, je leur donne, quoi qu'on dise, un prétexte des plus légitimes pour laisser tomber le récit dès le premier épisode du roman. Bon, voilà toute l'introduction. J'en conviens parfaitement, elle ne sert à rien du tout, mais, puisqu'elle est écrite, qu'elle reste. Sur ce, au fait. Première partie. Livre premier. Histoire d'une petite famille. Chapitre 1. Fiodor Pavlovitch Karamazov. Alexei Fiodorovitch Karamazov était le troisième fils de Fiodor Pavlovitch Karamazov, propriétaire foncier de notre district, qui fut si connu en son temps et qui, aujourd'hui encore, ne s'est pas entièrement effacé de nos mémoires, en raison de son décès tragique et mystérieux survenu voici exactement 13 ans. Décès dont je parlerai en lieu et place. Pour l'instant, je me contenterai de ne dire de ce propriétaire foncier, comme on l'appelait chez nous, même si de toute sa vie il n'a presque jamais vécu dans sa propriété, qu'une chose, à savoir qu'il appartenait à ce type étrange, et qu'on retrouve pourtant assez souvent, je veux dire, ce type d'homme, non seulement nul et débauché, mais en même temps bon à rien, qui savent généralement gérer leurs petites affaires de patrimoine, et seulement ses affaires, j'ai l'impression. Fiodor Pavlovitch, par exemple, parti de presque rien, c'était un propriétaire foncier des plus petits, il courait manger chez tel ou tel, rêvait de se faire entretenir, et néanmoins, au moment de sa mort, on lui trouva quasiment 100 000 roubles d'argent comptant. Et en même temps, pendant toute sa vie, il avait continué à être un des originaux les plus bons à rien de tout notre district. Je le répète encore, ce n'est pas une affaire de bêtises. Ces originaux-là, pour la plupart d'entre eux, ils sont futés et pas trop bêtes. Non, le fait est précisément qu'ils sont des bons à rien. Et qui plus est, d'une espèce de catégorie particulière, nationale. Il avait été marié deux fois et avait eu trois fils. L'aîné, Dmitri Fiodorovitch, de sa première épouse, et les deux autres, Ivan et Alexei, de la seconde. La première épouse de Fiodor Pavlovitch était issue d'une famille assez riche et ancienne de l'aristocratie, les Miusov, eux aussi propriétaires fonciers de notre district. Comment se fait-il précisément qu'une jeune fille à dot, et belle qui plus est, et de plus une tête brillante et pleine d'énergie, comme il y en a tant chez nous dans la génération actuelle, mais comme il y en avait déjà quelques-unes dans celle qui nous a précédées, ait pu se marier avec un aussi médiocre avorton, comme tout le monde l'appelait à ce moment-là, je ne chercherai pas trop à l'expliquer. Le fait est que j'ai connu une jeune fille du temps encore de l'avant-dernière génération, celle des romantiques, qui, après de longues années d'un amour mystérieux pour un certain monsieur, monsieur qu'au demeurant, elle aurait toujours pu épouser de la façon la plus paisible, avait fini néanmoins par s'inventer elle-même des obstacles insurmontables. Et une nuit de tempête s'était jetée du haut d'une rive escarpée qui ressemblait à un rocher, dans une rivière assez profonde et assez rapide, et s'était tuée, suite résolument à ses propres caprices, dans le but unique de ressembler à l'Ophélie de Shakespeare. Et même au point que si ce rocher qu'elle avait remarqué et aimé depuis longtemps avait été moins pittoresque, et s'il n'y avait eu à sa place qu'une prosaïque berge plate, le suicide lui-même, si ça se trouve, n'aurait pas eu lieu. Il s'agit là d'un fait réel, et il faut croire que dans notre vie russe, depuis ces deux ou trois dernières générations, ce genre de fait, ou des faits du même ordre, il a dû s'en produire pas mal. De la même façon, l'acte d'Adélaïda Ivanovna Miusova avait sans aucun doute dû être l'écho d'influences extérieures et lui aussi, rage d'une pensée captive. Peut-être avait-elle eu envie d'exprimer son indépendance féminine, de se dresser contre les règles établies, contre le despotisme de sa race et de sa famille, et sa fantaisie obligeante l'avait-elle, supposons, convaincue, ne fût-ce qu'un seul instant, que Fiodor Pavlovitch, en dépit de ses galons de picassiette, était quand même une des personnes les plus audacieuses et les plus sarcastiques de cette époque de transition vers le meilleur des avenirs, alors qu'il n'était juste qu'un méchant bouffon. Et rien de plus. Le piquant consistait en cela que l'affaire s'était limitée à un rapt, ce qui avait grandement séduit Adélaïda Ivanovna. Fiodor Pavlovitch, quant à lui, était particulièrement préparé, et même par sa condition sociale, à ce genre d'aventure, car il avait un désir passionné d'asseoir sa carrière, et ce, par n'importe quel moyen. S'acoquiner à une bonne famille et décrocher une belle dot le séduisait au plus haut point. Quant à l'amour mutuel, il semble qu'il n'y en ait pas eu du tout, ni du côté de la fiancée, ni de son côté à lui, malgré même la joliesse d'Adélaïda Ivanovna. De sorte que ce cas fut, si ça se trouve, unique en son genre dans toute la vie de Fiodor Pavlovitch. Un homme des plus sensuels tout au long de sa vie, prêt à se coller à la seconde au premier jupon qu'il est ne serait-ce qu'un tant soit peu émoustillé. Or, il se trouve que cette femme-là avait été la seule qui l'eût laissé, du point de vue des passions, complètement de marbre. Adélaïda Ivanovna, aussitôt après son rapt, avait réalisé en une seconde que son mari, elle ne faisait que le mépriser, un point c'est tout. Ainsi, les suites du mariage s'étaient-elles précisées à une vitesse foudroyante. Même si sa famille avait assez vite accepté l'événement et versé à la fuyarde la dot qui lui revenait, c'est une vie de désordre et de scènes perpétuelles qui avait commencé entre les deux époux. On racontait que la jeune épouse, ce faisant, se montrait incomparablement plus noble et plus haute que Fiodor Pavlovitch, lequel, comme on le sait aujourd'hui, lui avait barboté sur le champ, tout de suite, la totalité de ses sous, quelque chose comme 25 000 roubles, qu'elle venait juste de toucher, au point que ses jolis milliers, dès ce moment-là, s'étaient comme volatilisés. Le village et la maison de ville, tout sauf médiocre, qu'elle avait, là encore, reçu en dot, il avait essayé pendant de longues années et de toutes ses forces de les faire passer à son nom par la réalisation de je ne sais quel acte rédigé à cette fin, et il y serait sans doute parvenu, ne fût-ce, pour ainsi dire, que par suite du mépris et du dégoût qu'il inspirait à tout instant à son épouse, avec ses extorsions indécentes et ses supplications, juste par fatigue mentale, juste pour se libérer. Mais par bonheur, la famille d'Adélaïda Ivanovna était intervenue et avait limité la rapace. On sait positivement que des rixes fréquentes opposaient les époux, et que, dit la légende, ce n'était pas Fiodor Pavlovitch qui distribuait les coups, mais Adélaïda Ivanovna, dame emportée, audacieuse, hautain hâlé, impatiente, douée d'une force physique remarquable. Au bout du compte, elle avait fini par abandonner le domicile conjugal et par s'enfuir de chez Fiodor Pavlovitch avec un précepteur, séminariste, qui se mourait de faim, laissant sur les bras de Fiodor Pavlovitch son fils Mitya, âgé de 3 ans. L'instant d'après, Fiodor Pavlovitch avait institué chez lui tout un harem et une soulerie des plus sordides, et pendant les entr'actes, il faisait quasiment le tour de toute la province, se plaignant, les larmes aux yeux, au premier venu de l'abandon qu'il avait subi de la part d'Adélaïda Ivanovna, tout en communiquant de ces détails qu'un conjoint devrait avoir honte de communiquer sur sa vie de couple. Surtout, c'était comme si cela lui faisait plaisir, et même comme si cela le flattait de jouer aux yeux du monde le rôle ridicule de l'époux humilié et de dépeindre cette humiliation par touches pittoresques. « On pourrait croire, Fiodor Pavlovitch, que vous êtes monté en grade, tellement vous êtes content, malgré tout votre malheur, » lui disaient les moqueurs. Beaucoup, même, ajoutaient qu'il était heureux de se montrer sous cet air renouvelé de bouffon et qu'il faisait exprès, pour accentuer les rires, de ne pas remarquer le comique de sa situation. Qui sait, du reste, cela était peut-être naïf. Il avait finalement réussi à retrouver les traces de sa fuyarde. La malheureuse se révéla être à Pétersbourg, où elle s'était transportée avec son séminariste et s'était lancée à corps perdu dans l'émancipation la plus totale. Fiodor Pavlovitch s'était agité sur le champ et s'apprêtait à se rendre à Pétersbourg. Pourquoi faire ? Cela, bien sûr, il l'ignorait lui-même. Peut-être même aurait-il bien été capable de partir. Mais cette résolution arrêtée, il s'était tout de suite senti dans son bon droit et, pour se donner du cœur au ventre, avant de prendre la route, s'était relancé dans l'ivrognerie la plus effrénée. Et c'est à ce moment-là que, par la famille de son épouse, il avait reçu la nouvelle de sa mort à Pétersbourg. Elle était morte, comme d'un seul coup, quelque part dans un grenier. Du typhus, selon les uns, et selon les autres, soi-disant de faim. Fiodor Pavlovitch avait appris le décès de son épouse alors qu'il était en état d'ébriété. On dit qu'il s'était mis à courir dans les rues et à crier en levant de joie les bras au ciel. « Maintenant, maître, renvoie ton esclave en paix !» Mais selon d'autres sources, qu'il pleurait toutes les larmes de son corps, comme un petit enfant. Au point, disait-on, que c'était pitié de le voir, malgré tout le dégoût qu'il inspirait. Aussi bien c'était l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'il se réjouissait de sa libération et pleurait la libératrice, tout cela en même temps. Dans la plupart des cas, les gens, même les monstres, sont plus naïfs et plus simples que ce qu'en général on ne peut conclure à leur sujet. Et nous aussi d'ailleurs. Chapitre 2. Débarrassé du premier fils. On imagine, bien sûr, l'éducateur et le père que pouvait être un homme pareil. En tant que père, il lui était arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il avait tout bonnement et complètement laissé tomber l'enfant qu'il avait eu avec Adélaïda Ivanovna, non par haine envers lui ou suite à je ne sais quel syndrome du mari humilié, mais tout simplement parce qu'il l'avait complètement oublié. Tandis qu'il harcelait le monde avec ses larmes et ses plaintes et avait transformé sa maison en lupanar de la débauche, Mitya, âgé de 3 ans, avait été pris sous l'aile d'un serviteur de la maison, Grigori. Et si ce dernier ne s'était pas soucié de lui à ce moment-là, il n'y aurait eu personne peut-être pour lui changer à cet enfant sa petite chemise. Il était arrivé de plus que la famille de l'enfant du côté maternel, elle aussi, les premiers temps, l'avait comme oublié. Son grand-père, c'est-à-dire M. Miusov lui-même, le père d'Adélaïda Ivanovna, n'était plus de ce monde. Son épouse, devenue veuve, la grand-mère de Mitya, ayant déménagé à Moscou, était tombée trop gravement malade. Ses sœurs s'étaient toutes mariées, si bien que Mitya avait dû passer presque une année entière chez le serviteur, Grigori, et vivre chez lui, dans son isba de domestique. Au reste, quand bien même son papa se serait souvenu de lui, il ne pouvait quand même pas réellement oublier son existence. Il aurait été le premier à l'exiler dans cette isba parce que l'enfant le dérangeait dans sa débauche. Mais il advint que rentra de Paris un cousin de la défunte, Adélaïda Ivanovna, Piotr Alexandrovitch Miusov, qui devait par la suite encore passer de nombreuses années à l'étranger, homme à l'époque encore très jeune, mais particulier parmi tous les Miusov, éclairé, vivant dans les capitales à l'étranger, un homme de plus par toute sa vie européen et qui, à la fin de sa vie, restait un libéral des années 40 et 50. Tout au long de sa carrière, il avait été en rapport avec bien des hommes les plus libéraux de notre temps, aussi bien en Russie qu'à l'étranger, avait personnellement connu et Proudhon et Bakounine, et il aimait particulièrement se rappeler et raconter, déjà sur la fin de ses errances, les 3 journées de la Révolution parisienne de février 48, sous-entendant que lui-même, autant dire, il avait participé aux barricades. C'était là un des souvenirs les plus joyeux de sa jeunesse. Il avait une fortune à lui, 1 millier d'âmes selon les normes anciennes. Son splendide domaine se trouvait juste à la limite de notre petite ville et jouxtait les terres de notre célèbre monastère, auquel Piotr Alexandrovitch, dès ses plus jeunes années, sitôt qu'il l'avait eu en héritage, avait inventé à la seconde un procès interminable pour je ne sais quel droit de pêche dans la rivière et de coupe dans la forêt. J'ignore tous ces détails, mais il avait considéré comme quelque chose même d'un devoir civil et culturel de faire un procès aux cléricaux. Apprenant toute l'histoire d'Adélaïda Ivanovna, une femme dont, cela va de soi, il se souvenait et qu'il avait même dans le temps remarqué, et apprenant que Mitya était resté, malgré sa jeune indignation et son mépris pour Fiodor Pavlovitch, il s'était mêlé de cette affaire. C'est bien là qu'il avait fait pour la première fois la connaissance de Fiodor Pavlovitch. Il lui avait déclaré tout net qu'il aurait souhaité se charger de l'éducation de l'enfant. Il devait longuement raconter par la suite, comme un trait caractéristique, qu'au moment où il avait parlé de Mitya à Fiodor Pavlovitch, celui-ci, pendant un certain temps, avait pris l'air de quelqu'un qui ne comprenait pas du tout de quel enfant il pouvait être question, et s'était même comme étonné d'avoir quelque part dans sa maison un fils en bas âge. Le récit de Piotr Alexandrovitch, pour bien être un peu exagéré, il devait quand même comporter quelque chose qui ressemblait à la vérité. Mais réellement, Fiodor Pavlovitch avait toute sa vie aimé jouer la comédie, jouer soudain devant vous je ne sais quel rôle des plus inattendus et surtout le faire parfois sans la moindre raison, fût-ce à son propre détriment, comme par exemple dans le cas dont je parle. Ce trait, du reste, est propre à un très grand nombre de gens et même parfois des gens d'une grande intelligence, d'un bien autre niveau que Fiodor Pavlovitch. Piotr Alexandrovitch avait mené l'affaire tambour battant et avait même été nommé à parier avec Fiodor Pavlovitch, tuteur de l'enfant, parce que, malgré tout, à la mort de sa mère, il restait un peu de bien, une maison et une propriété. Mitya, de fait, s'était installé chez cet oncle au deuxième degré, mais ce dernier, finalement, n'avait pas de famille à lui. Et comme lui-même, il avait à peine fini de régler et d'établir ses affaires financières pour percevoir l'argent de ses domaines, qu'il s'était empressé de repartir à Paris pour une longue période, il avait confié l'enfant à l'une de ses grand-tantes, une certaine dame de Moscou. Il était advenu qu'installé à Paris, lui aussi, il avait complètement oublié cet enfant, surtout quand était survenue cette fameuse révolution de février qui avait tellement frappé son imagination et qu'il devait être incapable d'oublier jusqu'à la fin de ses jours. La dame de Moscou, quant à elle, était venue à mourir et Mitya s'était vu confier à l'une de ses filles déjà mariée. J'ai l'impression qu'il dut changer de nid par la suite encore une quatrième fois. Je ne m'étendrai pas trop pour l'instant sur ce sujet, d'autant que j'aurai à parler encore bien souvent de ce premier enfant de Fiodor Pavlovitch, et pour l'instant, je me limiterai aux renseignements les plus indispensables sans lesquels je ne peux même pas commencer le roman. Tout d'abord, ce Dmitri Fiodorovitch était le seul des trois fils de Fiodor Pavlovitch à avoir grandi avec la conviction qu'il possédait quand même un petit capital et que, le jour où il atteindrait sa majorité, il deviendrait indépendant. Son adolescence et sa jeunesse s'étaient passées dans le plus grand désordre. Il n'avait pas fini le lycée, était entré par la suite dans une école militaire, puis s'était retrouvé au Caucase, avait été promu, s'était battu en duel, avait été dégradé, puis à nouveau promu, avait mené une vie de débauche et dépensé une somme d'argent assez rondelette. L'argent, il n'avait commencé à le toucher de Fiodor Pavlovitch qu'à partir de sa majorité, et il avait déjà eu le temps de faire des dettes. Quant à son père, Fiodor Pavlovitch, il ne l'avait connu pour la première fois qu'après sa majorité, quand il avait débarqué tout spécialement dans nos contrées pour s'expliquer avec lui au sujet de ses biens. Il semble que son géniteur lui avait déplu dès ce moment-là. Il avait passé chez lui un peu de temps après n'être parvenu à recevoir de lui qu'une certaine somme et avoir trouvé avec lui un certain arrangement au sujet de la perception ultérieure des revenus du domaine, domaine dont, fait digne qu'on le remarque, il n'avait pas réussi, malgré tous ses efforts cette fois-là, à faire en sorte que Fiodor Pavlovitch lui dise ni le rendement ni la valeur. Fiodor Pavlovitch, dès la première fois, et c'est aussi une chose dont il faut se souvenir, avait remarqué que Mitya se faisait de sa fortune une idée surévaluée et inexacte. Fiodor Pavlovitch en avait été très content, ayant pour cela certaines raisons à lui. Il avait simplement conclu que le jeune homme était frivole, qu'il avait le sang chaud, qu'il était impatient et débauché, qu'il suffisait juste de lui donner un petit quelque chose en attendant pour le voir, lui, ne serait-ce bien sûr que pour une courte période, se calmer à l'instant. Voilà donc ce que Fiodor Pavlovitch s'était mis à exploiter. C'est-à-dire qu'il se défaisait de lui par de petits versements, des envois temporaires, tant et si bien qu'au bout du compte, il était arrivé qu'au moment où Mitya, perdant patience, était réapparu dans notre ville pour la deuxième fois afin de mettre un terme, cette fois définitif, à ses affaires avec son père, il s'était avéré soudain, à sa stupeur la plus extrême, qu'il ne lui restait plus rien du tout, que c'était même difficile à compter, qu'il avait déjà pris en argent à Fiodor Pavlovitch toute la valeur de son bien et que lui-même, peut-être, il lui devait des sous. Que suite à tel et tel accord qu'il avait lui-même, à telle et telle date, souhaité signer, il n'avait plus le droit de demander davantage, etc. Le jeune homme avait été stupéfait, avait soupçonné un mensonge, une tromperie, était presque sorti de ses gonds et était comme devenu fou. C'est précisément cette circonstance qui devait amener à la catastrophe qui fera le sujet de mon premier roman préliminaire, ou pour mieux dire, son histoire extérieure. Pourtant, avant de passer à ce roman, il faut que je parle aussi des deux autres fils de Fiodor Pavlovitch, des frères de Mitya, et que j'explique d'où ils sortaient, eux.